Voilà donc Floriane de Riva, qui est également élève conservatrice à l'ENSIB, du diplôme de conservateur des bibliothèques 23, voilà, et qui va nous parler des jardins et des bibliothèques, pour rester dans le sujet.
Merci. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Katrina. Donc vous verrez que nos sujets, ils se recoupent un petit peu, même s'ils n'ont pas exactement la même approche. Alors du coup, quelques précisions méthodologiques. Donc moi, mon sujet, c'était vraiment le jardin. Le jardin, c'est étymologiquement, c'est un espace clos. Un espace clos et organisé, qui est l'œuvre commune de l'homme et de la nature. Donc on est déjà dans quelque chose de différent de la nature, simplement. Il s'agissait pour moi de travailler sur les rapports entre ces deux espaces, l'espace du jardin et l'espace de la bibliothèque, qui sont des rapports de ressemblance d'une part, mais aussi des rapports de complémentarité dans leurs différences. Donc mon approche, elle n'était pas scientifique comme Katrina, elle était plutôt... En fait, j'ai deux axes dans mon travail. Le premier qui est plutôt théorique, sur les différents modèles de bibliothèque et la façon dont l'image du jardin peut nous aider à penser la bibliothèque. Et un axe plus pratique, donc j'essaierai de parler plutôt de ça, d'exemples de cas de bibliothèque qui intègrent d'une certaine façon le jardin. Le point de départ, en fait, il est le même que celui de Katrina, c'est pourquoi finalement il y a si peu de bibliothèques et de bibliothécaires qui utilisent le jardin, alors même que de plus en plus de bâtiments l'intègrent dans leur architecture. Et le point d'arrivée, il est aussi un peu le même, c'est la bibliothèque d'aujourd'hui a tout intérêt à adopter d'une façon ou d'une autre la nature dans l'espace et aussi dans les actions de la bibliothèque, sans limiter les plantes vertes à une fonction purement décorative. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est la forme du jardin qui est intéressante parce qu'elle est à la fois clôture, c'est le sens même du mot jardin, d'être clos, et ouverture. Et pour moi, c'est un atout fort pour la bibliothèque. Je vais commencer par vous proposer une citation de Pascal Quignard, que je n'ai pas citée d'ailleurs dans mon mémoire, qui est un petit peu assez dur pour la bibliothèque, mais qui a le mérite de mettre en valeur... C'est celui-ci. Donc une citation qui a le mérite de mettre en valeur la différence entre dans l'image qu'on peut avoir, la perception qu'on peut avoir de la bibliothèque, la différence avec le jardin. Je vais vous lire la citation pour l'instant. Donc c'est une citation qui est extraite des petits traités qui ont été publiés dans les années 80 chez Gallimard, du 11e traité qui s'intitule La bibliothèque. Voilà. Ah, merci. J'aime beaucoup lire. J'aime un peu la poussière. J'aime très peu les bibliothèques. Curieuses grottes affectées, oppressantes et sombres, avec huluberlus, forçats et sentinelles, nichées au cœur des villes, au flanc des vieux palais, et qui servent d'entrepôt à cette petite part de relief que certains morts ont le goût pour le moins indiscret d'abandonner sur le rivage des vivants. Je n'ai jamais su écrire dans le jour médiocre, brûlant les yeux, assis sur les fauteuils de bois dur. Le jardin, l'eau, l'aube, l'isolement, le soleil sont mes dieux. A fortiori, comment aurais-je pu lire dans la multitude agitée de ces clubs, à l'écart de la clarté du jour, dans cet air usé, souvent fétide, que rien ne renouvelle, etc. Donc là, ce qui est intéressant dans cette citation, c'est cette image très négative de la bibliothèque qui apparaît comme un lieu fermé, sombre, trop plein de monde. On ne peut pas y respirer, elle est plus ou moins liée à l'idée de la mort. Alors que le jardin, lui, est associé au soleil, à l'eau, à la possibilité de s'isoler, à la lumière, à l'air et essentiellement donc à la vie, et notamment la vie littéraire à travers l'écriture et la lecture. À partir de ces citations, qu'est-ce qu'on peut finalement, comment le jardin peut devenir un allié pour la bibliothèque? C'était donc la question de mon mémoire. Alors, un jardin, qu'est-ce que c'est? C'est un espace clos, je l'ai déjà dit, qui répond plus ou moins aux besoins d'habiter la nature, de la rendre humaine, de la maîtriser peut-être aussi quelque part. D'où la nécessité de cette clôture pour signifier la limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre le connu et l'inconnu, entre le chaos et le monde humain et organisé. Mais cette clôture n'est jamais une fermeture étanche, et il y a toujours quelque chose qui passe à travers les buissons qui gardent le jardin, une ouverture sur le ciel, ou en tout cas une porte, c'est-à-dire la possibilité pour que quelque chose échappe au jardinier, à la maîtrise du jardinier, quelque chose qu'on peut appeler la vie ou le vivant. La bibliothèque, elle répond un peu au même besoin, ce besoin de délimiter. Et comme le jardin, c'est aussi une façon, en un sens, de maîtriser le monde, de le comprendre, de faire le tour de ce qui est connu, de rassembler. Et elle est aussi un moyen, comme le jardin, d'être chez soi dans le monde. Plus précisément, c'est le lieu où la raison va se sentir chez elle, d'où ce besoin de limite, puisque le principe même de l'acte rationnel, c'est de distinguer et de délimiter. Alors traditionnellement, à cause de ce besoin de limite, la bibliothèque est plutôt un espace fermé et protégé, où l'on conserve, mais aujourd'hui elle n'est pas, ou en tout cas plus seulement, ce lieu de conservation. C'est aussi un lieu public, un lieu politique au cœur de la cité qui a besoin d'être vivant. Et aujourd'hui, elle cherche de plus en plus à atténuer les limites, les frontières ou les barrières socioculturelles qui peuvent limiter son accès. Souvent, le symbole en est la banque d'accueil dont on change la place ou la hauteur. Et l'idée est toujours de faire de la bibliothèque un lieu de rencontre et d'échange. Et mon hypothèse de départ, c'est donc que le jardin peut être un allié fécond en ce sens pour la bibliothèque, parce qu'il est lui-même cet espace clos mais ouvert, délimité mais accueillant, qui laisse la place à l'imprévisible et où le vivant peut cohabiter sous des formes diverses. Sachant qu'on ne brûle pas des jardins comme on brûlerait des bibliothèques. Et il y a sans doute là quelque chose d'intéressant pour la bibliothèque. Alors donc mon plan, c'est tout simplement un premier axe qui porte sur les points communs entre jardin et bibliothèque. Et le deuxième sera plutôt donc sur les rapports de complémentarité, comment on peut utiliser le jardin, comment la bibliothèque peut utiliser le jardin. Donc j'essaierai d'aller assez vite sur la première partie. La première partie, en fait, ça partait un peu de cette image du désherbage. On parle du désherbage en bibliothèque. Et je me disais, voilà, dans quelle mesure on peut pousser la comparaison et faire du bibliothécaire un jardinier, et comment est-ce que le jardin est une image intéressante pour parler de la bibliothèque. Je ne vais rien dire d'extraordinaire ou de très nouveau, mais c'est une image qui m'a paru assez féconde pour repenser les différentes fonctions de la bibliothèque. Alors, tout d'abord, il y a des fonctions communes à la bibliothèque et au jardin que j'ai tenté de retracer aussi à travers l'histoire des bibliothèques, sans forcément qu'il y ait là une prétention historique. C'est plutôt pour réfléchir à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par bibliothèque. Donc, les différents modèles de bibliothèque dans l'histoire, ils s'accumulent finalement dans la vision qu'on peut en avoir aujourd'hui. La première fonction commune au jardin et à la bibliothèque, c'est la conservation. La conservation du meilleur, pour reprendre une expression de Gilles Clément, qui est un penseur du jardin, paysagiste, qui a notamment créé le jardin de l'ENS de Lyon, qui tente de définir ainsi, qui propose cette définition possible du jardin, ce lieu où l'on conserve le meilleur, c'est-à-dire le lieu où on prend le meilleur de ce que la nature a à offrir. Et on fait évidemment un peu la même chose en bibliothèque avec la culture. Et là, donc, on voit avec l'exemple de la BNF l'image du cloître médiéval comme lieu de conservation du savoir, au cœur duquel on trouve souvent un jardin, qui reste présent dans notre imaginaire associé à la bibliothèque. Une deuxième fonction commune au jardin et à la bibliothèque, c'est cette notion d'ouverture sur le monde. Jardin et bibliothèque donnent à voir et ils permettent un regard distancié sur le monde. Et je crois qu'ils se rejoignent vraiment en ce qu'ils sont à la fois ce lieu de refuge et de retrait, mais aussi ce lieu de développement et d'ouverture au monde, comme si le fait de se retirer momentanément du monde permettait de mieux le comprendre. C'est une vision qu'on retrouve notamment dans le rôle éducatif de la bibliothèque, dans la conception humaniste, on peut dire. En pensant par exemple à Montaigne et sa librairie. Montaigne qui voulait continuer jusqu'au bout à cultiver son jardin imparfait, La mort me trouvera plantant mes choux, etc. Un peu plus tard, Gabriel Naudet et Claude Clément, qui sont deux théoriciens de la bibliothèque au XVIIe, qu'on oppose souvent parce que l'un voulait fermer la bibliothèque au lecteur, voulait en faire un jardin fermé et une fontaine scellée, tandis que l'autre voulait ouvrir au plus grand nombre. On les oppose souvent, mais en fait, ils s'accordent tous les deux pour dire que la bibliothèque, en tant que bâtiment, doit avoir la vue sur un jardin. Gabriel Naudet, notamment, dit « La bibliothèque doit être située entre quelques grandes cours et un beau jardin où elle est son jour libre, les vues bien étendues et agréables, son air pur. Voilà, » donc ça rejoint un peu ce que disait Katrina. Alors, j'ai un exemple de bibliothèque qui, là, pour le coup, ne date pas du XVIIe, mais que je trouve intéressante parce qu'elle rejoint un peu cette idée, cette conception humaniste, voilà, de fenêtre sur le monde. C'est la bibliothèque d'un lycée lyonnais qui se trouve sur la colline de Fourvières. Alors, on ne voit pas sur la photo, mais en fait, depuis la bibliothèque qui est à l'étage, on aperçoit toute la vue sur Lyon, le vieux Lyon et puis un peu la Croix-Rousse. Je trouve que c'est une architecture intéressante puisqu'elle permet renvoie vraiment à cette idée de fenêtre sur le monde. Elle est construite autour de trois arbres, trois baronniers. Donc il y a une baie vitrée. Enfin, les lecteurs peuvent s'installer autour des arbres et notamment en ayant la vue sur la ville. Voilà, donc cette idée d'une fenêtre sur le monde où l'on ferait grandir l'intelligence, un peu comme on fait grandir une plante. Un troisième point commun, et après je passerai à autre chose. Un troisième point commun à la bibliothèque et au jardin, c'est la notion de promenade. Alors là, je vous propose la vue de la bibliothèque Toussaint d'Angers, cette fois depuis l'extérieur. Donc la promenade, c'est, je crois que c'est un thème qu'on entend souvent aussi aujourd'hui dans la littérature professionnelle, qui renvoie là peut-être plus à la vision romantique de la bibliothèque et du jardin. Le jardin étant le lieu de l'épanouissement du rêve, de l'expression du moi, un lieu littéraire, un lieu du livre. Je pense notamment au parc d'Ermenonville où le marquis de Gérardin avait fait graver les citations de ses auteurs favoris sur les bancs et avait presque transformé son parc en recueil personnel, en bibliothèque personnelle, si on peut dire. Donc le jardin, on le retrouve un peu comme lieu du rêve et aussi potentiellement du cauchemar puisqu'on peut s'y perdre. Et associé à ce thème de la promenade, il y a le thème du labyrinthe que je trouve intéressant. C'est étonnant parce que quand on évoque le jardin et quand on pense au labyrinthe, c'est plutôt quelque chose de positif, quelque chose de ludique dans lequel on peut se promener. On pense aussi à tout ce qui peut se passer derrière les buissons. Alors que quand on parle de la bibliothèque, le labyrinthe renvoie à quelque chose de beaucoup plus négatif. C'est une insulte ou en tout cas une critique qu'on peut faire à un bibliothécaire de lui dire que sa bibliothèque ressemble à un labyrinthe. Et c'est vrai qu'il faut mieux que le lecteur puisse s'y retrouver. Mais finalement, c'est un peu dommage parce que le labyrinthe, c'est aussi le lieu du récit. C'est quelque chose qui est lié à l'aventure, qui symbolise la vie semée d'embûches et de détours. C'est le lieu aussi de l'inattendu et de la surprise. Et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Pierre Riboulet, quand il a construit la bibliothèque de l'Université Paris 8, évoque un peu ce thème-là. Voilà, il dit qu'il a essayé de permettre au lecteur de circuler sans forcément toujours retrouver la même chose sur son chemin et en créant un peu d'inattendu. Et sans surprise, cette bibliothèque donc, de l'Université de Paris 8 est parsemée de petits jardins intérieurs qui contribuent à ce sentiment-là de promenade. Voilà, alors je ne vais pas m'étendre plus parmi les autres points communs qu'on peut relever entre bibliothèque et jardin. Il y a le thème de la classification qu'on retrouve dans les jardins botaniques au 19e, la notion aussi d'espace public et de lieu commun pour la société. Et puis aujourd'hui aussi, on parle beaucoup de durable, avec notamment tout ce qui va autour de l'écologie. On a tendance à avoir aussi la bibliothèque comme un jardin, comme ce lieu de résistance, d'enracinement dans le temps long. Voilà, c'est intéressant, c'est vrai que le monde de la culture parfois emprunte un peu un certain vocabulaire à l'écologie. On parle de diversité culturelle comme on parlerait de biodiversité. Je trouve que c'est des thèmes intéressants au-delà parfois des formules. dans les points communs entre bibliothèque et jardin, il y a aussi évidemment des dangers partagés, la tentation de fermer le jardin et la bibliothèque, la tentation à l'inverse de l'ouvrir, d'abolir toutes les limites qui, là, on peut penser plutôt à, dans la littérature, à tous ces thèmes un peu, ces images un peu cauchemardesques de la bibliothèque qui s'étendrait partout. Et puis à la tentation d'arrêter aussi le temps, la tentation du jardin d'Éden, pour ainsi dire, qui est voilà, de faire de la bibliothèque ou du jardin un lieu figé et qui n'évoluerait plus dans le temps. Ce qui rend absolument évidemment nécessaire le rôle du jardinier et du bibliothécaire. Et c'est là où j'en viens donc aux mots communs, au vocabulaire commun aux jardiniers et aux bibliothécaires. J'ai évoqué tout à l'heure le désherbage, bon, c'est un mot parmi d'autres. Comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais aller un peu vite. Donc il y a voilà, plein d'autres mots qu'on pourrait évoquer, la culture, s'implanter ou planter, c'est-à-dire s'ancrer quelque part dans un territoire, recueillir, moissonner, butiner, la notion aussi de séparation, de création d'espaces distincts. Le bibliothécaire comme le jardinier crée des allées et des parcelles. Et des grottes aussi. Alors ça, c'est un thème intéressant, la grotte, qu'on retrouve parmi certains penseurs du jardin et qu'on retrouve aussi à évoquer à propos de la bibliothèque. Michel Melot a déclaré à propos de la BPI, justement, que dans une bibliothèque, il faut des grottes et des jardins, des espaces clairs et des coins intimes. Voilà. Donc, sans m'attarder plus, je vais passer à quelques exemples de bibliothèques qui... d'une façon ou d'une autre, utilise le jardin. Et je vais commencer par l'exemple de Limoges. Donc voilà, mes exemples, c'est des exemples parmi d'autres. C'est vraiment simplement l'occasion d'évoquer les possibilités de rapport entre bibliothèque et jardin. Il ne s'agit pas de modèle. Voilà. Et il ne s'agit pas non plus de... Je n'ai pas essayé de faire une liste exhaustive de tout ce qui était possible. Il y a sans doute beaucoup d'autres choses que je n'ai pas vues et dont je ne parlerai pas. Donc la bibliothèque de Limoges a été construite donc entre 1993 et 1998 par Pierre Riboulet autour d'une idée, enfin autour de deux idées en fait. La première était la notion d'unité. Il s'agissait pour Pierre Riboulet de créer un seul volume. Et là je vais citer donc Pierre Riboulet dans un entretien avec Anne-Marie Bertrand en juin 1996 disait. Ce dont on a le plus besoin dans la société où nous vivons, c'est de cette recherche et de cette rencontre de l'unité. Et l'autre idée qui préside à cette architecture, c'est la notion de vie intérieure, d'invitation à la vie intérieure, en référence au livre qui est pour Riboulet un objet irremplaçable, à la fois repli intime, dialogue privé de l'auteur au lecteur, mais aussi ouverture infinie au monde, façon d'être au monde. Et là, le jardin a à la fois, répond à la fois à ces deux idées, donc, en manifestant cette unité possible, puisque donc, on a un jardin intérieur qui fait le lien entre le bâtiment ancien et le bâtiment nouveau, puisqu'il y a le nouveau bâtiment de la BFM s'appuie sur un bâtiment ancien. Il fait le lien aussi entre l'intérieur de la bibliothèque et l'extérieur, puisqu'on a la vue sur la ville depuis le jardin. Et puis, il évoque aussi ce paradoxe du livre qui est donc à la fois refuge et fenêtre sur le monde. Alors, assez rapidement, donc ce jardin, c'est un espace qui n'est pas très grand, qui se situe sous une verrière, où poussent, on le voit là sur la photo, des espèces plutôt tropicales, et qui propose voilà, une sorte de double rideau par rapport... à la ville, qu'on voit de l'extérieur, mais aussi par rapport au reste de la bibliothèque. Finalement, il est utilisé de façon assez cohérente par rapport au projet de Riboulet, c'est-à-dire qu'il sert avant tout de salon de lecture. Là, on voit un concert, mais en général, c'est un lieu très calme qui sert donc essentiellement à la lecture, aussi évidemment à la conversation, à la détente, parfois à la sieste. En tout cas, c'est un lieu qui est assez apaisant et qui, par ailleurs, qui est aussi un lieu esthétique, c'est-à-dire qu'il se donne vraiment à voir. Il est symbolique de la ville de Limoges. Les habitants viennent volontiers le montrer aux personnes de passage. Et là, il y a, enfin, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de plus que décoratif dans ce jardin. C'est aussi un lieu comment dire, fédérateur. Là, c'est là où on voit quand un espace est beau et il est capable aussi de réunir. En tout cas, c'est un lieu que l'on contemple, que l'on photographie. Il y a même des photos de mariage qui s'y font. Et puis, c'est un lieu on voit, là, d'événements. Donc, on s'y déroule des concerts, des ateliers de lecture, des expositions aussi. Quand les objets exposés s'y prêtent, on peut les suspendre aux arbres. En tout cas, voilà, c'est un jardin qui correspond bien à cette fonction-là de jardin intérieur, qui correspond un peu à la vie intérieure de la bibliothèque. On constate quand même qu'il est, comme il est assez étroit, en fait, là où on voit les musiciens, normalement, il y a un cercle de fauteuils rouges, ce qui fait qu'il y a deux petits salons de lecture. Mais comme c'est assez étroit, finalement, les usagers, il y a rarement une foule de monde dans le jardin, il y a plutôt un ou deux usagers. Et les autres se mettent plus volontiers sur le bord, là où on voit les personnes sur les bancs. Sans doute parce qu'il y a ce caractère un peu esthétique du jardin dans lequel on n'ose pas forcément entrer. Une autre possibilité, donc cela c'est très différent et Catherine en a déjà un peu parlé, c'est la bibliothèque Louise Michel. Donc là on est un peu à l'opposé, c'est-à-dire qu'on est on a un jardin à l'extérieur qui ne faisait pas franchement partie d'un projet architectural au départ puisque l'architecte en fait était tenu de maintenir un passage entre le nouveau bâtiment de la bibliothèque et le bâtiment voisin. Donc il a décidé d'en faire un jardin, mais ce n'était pas le projet initial. En tout cas, voilà, c'est un jardin qui est utilisé comme le reste de la bibliothèque en conformité avec la notion de troisième lieu, c'est-à-dire voilà, qui est modulable et ouvert à toutes sortes d'usages. Et on constate voilà, que les usagers se sont appropriés fortement l'espace. Donc Catherine en a parlé, on a des lecteurs qui viennent régulièrement s'en occuper, qui apportent des bulbes à planter. Voilà. Et sinon, pour ce qui est des usages, les usages sont à peu près les mêmes que dans la bibliothèque Louise Michel, c'est-à-dire lire, manger, dormir, rire, jouer, enfin, toutes sortes d'usages. Essentiellement quand même la lecture, et c'est là où on retrouve, donc malgré les différences avec le jardin de Limoges, je crois qu'il y a quand même cette fonction commune qui revient souvent, c'est celle de lieu de lecture. Et il me semble, enfin je formule l'hypothèse que le jardin permet un rapport apaisé à la lecture, à l'écrit, puisqu'il est beaucoup moins associé à l'étude que le bâtiment intérieur de la bibliothèque. On est aussi moins livré au regard, peut-être dans le jardin, on a ce sentiment de protection dont parlait Catherine, qui fait qu'on s'y adonne plus volontiers, sans doute à la lecture de détente. Sinon, donc, un autre usage du jardin, c'est aussi, bien entendu, comme il y a beaucoup d'enfants qui fréquentent la bibliothèque, il sert aussi souvent à certaines heures de sas de décompression, donc on peut y faire un peu plus de bruit que dans le reste du bâtiment. J'aurais pu citer beaucoup d'autres exemples, sans doute, de bibliothèques qui incluent, qui ont dans leur enclos de bibliothèque un jardin qui s'ouvre à l'extérieur. Il y a le RIS, la bibliothèque du RIS à Villeurbanne, qui a un patio intérieur. On a parlé de la bibliothèque centre-ville de Grenoble avec sa terrasse. Mais il y a aussi une troisième possibilité qui est là, pour le coup, de faire sortir la bibliothèque de ses murs et d'aller dans les jardins en allant donc en dehors hors les murs. Et là, donc, j'ai étudié l'exemple du bibliobus de la ville de Lyon, mais j'aurais pu sans doute aussi en prendre d'autres. Ce qui est intéressant dans la notion de hors les murs, c'est, alors souvent on en parle comme d'un ensemble, le hors les murs. En fait, si on creuse, on se rend compte qu'il y a des usages, ça recouvre des réalités très différentes, puisque le hors les murs, ça peut être le hors les murs dans d'autres murs, et puis ça peut être le hors les murs à l'extérieur de la bibliothèque, mais c'est quand même très différent d'aller dans la rue, sur une place de centre-ville, dans une gare, dans un centre commercial ou dans un jardin. Et moi, ce qui donc m'a intéressée, c'est le jardin, en tant qu'il introduit une forme de séparation avec le lieu de passage qui est la rue. Il est une invitation vraiment à la pause et aussi éventuellement à la rencontre. Voilà, et donc là, on voit sur la photo en bas à gauche, c'est la présence du bibliobus de la bibliothèque de la ville de Lyon dans le parc de la Tête d'Or lors du dialogue des dialogues en humanité au mois de juillet 2014. Voilà, où ils tiennent des stands de lecture et où ils organisent aussi des rencontres, débats, notamment pour les enfants, débats citoyens sur des questions de société. Et là, c'est pour le coup très favorable à la rencontre avec des personnes qui ne sont pas forcément usagers de bibliothèque habituellement et qui trouvent là vraiment un lieu de rencontre. Dans le jardin, ce qui est intéressant aussi, c'est... Catherine en a parlé aussi, c'est sans doute cette disparition des différences socioculturelles. Finalement, on est tous égaux devant la nature, les différences s'atténuent et concrètement, on s'assoit dans l'herbe, en cercle, assez volontiers. Donc là, en haut à droite, on a une séance de lecture pour les enfants de la crèche du centre social du quartier des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon. Et donc voilà, on se trouve dans un petit jardin qui est en fait en retrait par rapport à la rue. Au départ, le bibliobus s'arrêtait à cet endroit parce qu'il y a le marché à proximité. Il s'arrêtait dans la rue et puis finalement, assez vite, ils se sont mis dans le jardin puisque personne ne s'arrêtait dans la rue alors que dans le jardin, il y a beaucoup plus de personnes qui vont s'arrêter pour faire vraiment une pause dans la vie urbaine. Voilà. Alors, en conclusion, donc j'ai fait un peu vite le tour. J'ai assez peu parlé finalement des limites et des contraintes liées au jardin, puisqu'en fait, il y en a assez peu qui sont évoquées, en tout cas par les professionnels que j'ai rencontrés, si ce n'est évidemment le temps qu'il fait, puisqu'on ne peut pas fréquenter le jardin en plein hiver et sous la pluie. Mais il y a quand même beaucoup de possibilités dans le jardin, qui sont finalement assez peu aussi mises en valeur dans les activités des professionnels. Il y avait cette bibliothécaire de Louise Michel qui me disait « Oui, c'est vrai, je m'occupe du jardin, mais ce n'est pas du travail, je culpabilise un peu, c'est du plaisir. » Et voilà, je trouve que c'est dommage qu'on prenne aussi peu au sérieux le jardin avec tout son potentiel. Finalement, donc, on parlait tout à l'heure des projets d'architecture, de bibliothèque, qui incluait des jardins. Donc, il y a la médiathèque de Thionville qu'on a évoquée qui s'appelle Le Troisième Lieu qui intègre une terrasse jardin. Par contre, je ne sais pas exactement où en est le chantier, mais je crois qu'il prévoyait d'ouvrir maintenant. Ah, d'accord. Il y a la médiathèque aussi L'Agora à Metz qui ouvrira en 2016 et qui inclut une grande terrasse sur le toit, enfin un toit végétalisé. Il y a la bibliothèque Françoise Sagan à Paris, qui est intéressante. Donc là, c'est un projet des architectes qui ouvrira normalement en mai. Et c'est intéressant parce que là, ils ont voulu faire un jardin donc, qui amène le lecteur vers la bibliothèque. Les lecteurs ne pourront pas y emmener des livres de la bibliothèque puisque ça sera ouvert. Mais voilà, ils ont voulu créer... Voilà, c'est un espace pour rentrer dans la bibliothèque qui évoque un petit peu la jungle, les romans d'aventure au 19e, l'île au trésor, etc. Après, on peut débattre sur le fait que les palmiers à Paris, je ne sais pas si ça survit très bien, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir voulu créer quelque chose qui soit de l'ordre du récit pour amener le lecteur vers la bibliothèque. Voilà, créer un parcours narratif. Dans les pistes à creuser autour de ce sujet du jardin, il y aurait évidemment le thème du hors les murs que je n'ai fait que survoler, les thèmes aussi autour de l'écologie avec toutes ces dimensions, comment aussi on en parle en bibliothèque. Donc effectivement, il y a des exemples assez nombreux de bibliothèques qui proposent des grainothèques. J'ai assez peu travaillé là-dessus, mais aussi parce que c'est là encore assez peu mis en valeur par les bibliothèques. Mais ça existe dans beaucoup d'endroits. Et puis, un autre thème, je trouve intéressant à creuser, que j'ai rencontré, qui m'a apparu comme important pendant cette étude, c'est le thème de la porte. Puisque finalement, on parle beaucoup aujourd'hui de l'accueil, on parle beaucoup du hall d'accueil, mais on parle souvent moins de la porte elle-même, c'est-à-dire de cet intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. Alors que voilà, les architectes, quand même, y pensent, manifestement. Voilà. Donc je vais laisser le mot de la fin à Cicéron, qui introduit mon mémoire, qui est une citation dans une lettre qu'il écrit à un de ses amis, Varron, qui habite à la campagne et qui l'invite à venir faire un séjour. Et Cicéron lui répond qu'il viendra philosopher avec grand plaisir. Et il lui écrit « Si ortum in bibliotheca abes, deerit nihil », ce qui signifie « Si tu as un jardin dans ta bibliothèque, il ne nous manquera rien ».
Voilà. Merci, jolie façon de conclure. Voilà, donc si vous avez des questions à poser à Floriane de Riva. Ben... Attends, Odile.
Merci, j'ai trouvé les deux interventions sur le sujet des jardins vraiment très très intéressantes. Je vous remercie pour toutes les pistes que vous nous avez indiquées. Moi j'aurais une question. Il me semble, enfin en tout cas dans la pratique que nous avons des projets architecturaux, qu'il y a une opposition culturelle et concrète entre la restauration de la biodiversité, de façon générale, et les impératifs de la conservation. Et que c'est un sujet que vous n'avez ni l'une ni l'autre abordé. Alors je sais que vous avez apparemment plutôt une optique lecture publique, mais... La lecture publique elle-même est confrontée à la question de la conservation. Comment est-ce que c'est un sujet que vous avez rencontré ou que vous avez volontairement laissé de côté ? C'est un peu pour les deux dernières intervenantes la question.
Moi, je l'ai un peu laissé de côté, c'est vrai, parce que je ne pouvais pas tout dire ou tout aborder, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant et c'est pour ça que j'en parlais un peu. C'est vrai que ça serait intéressant de creuser derrière.
Quand vous parlez de conservation, vous placez, enfin, alors, donc du point de vue très concret du végétal, mais si je comprends bien du point de vue, enfin, oui, tout à fait. Alors tout à fait. Alors ça après, enfin, moi c'est une question qui me semblait pas être au cœur de mon propos, mais je l'évoquais alors très brièvement dans mon mémoire, davantage comme obstacle psychologique peut-être. À l'intégration des jardins dans nos bibliothèques, parce qu'en effet, il y a peut-être toute une part du travail du bibliothécaire qui, pendant longtemps, a été de tenir les livres à l'écart de la nature, parce que potentiellement la nature pouvait abîmer, dégrader, enfin, avec voilà, donc davantage avec ce point de vue-là.
Moi, je voudrais. Que vous puissiez, sans doute un peu rapidement, dire ce que vous avez en partie effleuré ou les pistes que vous avez ouvertes dans votre travail sur la différence et les ressemblances entre le jardin à l'anglaise, le jardin à la française, la bibliothèque anglaise protestante, la bibliothèque française plus catholique. Et je trouve que c'était vraiment là aussi un parallèle vraiment très intéressant.
Oui, en fait, j'ai pas vraiment creusé ce parallèle-là dans mon mémoire, mais c'est vrai que c'est intéressant la différence entre le jardin comme espace organisé et aussi le parc qui veut imiter la nature. J'ai pas beaucoup creusé les exemples aussi à l'étranger, c'est vrai que ça aurait été intéressant, mais je me suis plus concentrée sur des exemples de bibliothèques françaises, donc. Je ne suis pas allée beaucoup plus loin dans cette réflexion-là.
Un prochain mémoire d'élève conservateur. Martine Blanc-Montmailleur, justement, quand elle a participé au travail de réimplantation des collections à la BPI en 2000, faisait la différence entre le jardin à la française et le jardin à l'anglaise. Donc le jardin aristo-démocratique à la française et le jardin démocratique à l'anglaise, avec la possibilité effectivement de distribuer les collections selon l'un ou l'autre modèle. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions ? Oui. Attendez.
Un crois, quand on commençait à bâtir la médiathèque de la Villette, on a réclamé quelques plantes vertes pour les personnes. Je parle du personnel parce que 83, c'était pas ouvert. Et notre directeur, formellement, a interdit des plantes qui allaient mettre en danger les collections à cause des bestioles, que sais-je. Et ça s'est pas propagé du tout dans les locaux de la bibliothèque non plus. Je ne sais pas, il avait peut-être raison, mais voilà, parce qu'on a parlé des conservations, et c'était une bibliothèque qui n'était pas vouée à avoir des collections de conservation.
Oui, après, c'est vrai qu'il y a, enfin, chaque bibliothèque aussi a ses fonctions, ses orientations, et c'est vrai qu'entre la bibliothèque, entre la BNF qui est obligée de fermer son jardin, justement parce qu'elle a des collections patrimoniales précieuses, et la bibliothèque Louise Michel qui voilà, est dans une optique très différente. On prête nos livres à nos lecteurs et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent chez eux. Donc pourquoi ne pas les autoriser à aller dans le jardin? On est dans des cas très différents de bibliothèque.
Bien, mais s'il n'y a pas de nouvelles questions, merci beaucoup Floriane. Encore une fois, hein, donc, votre mémoire va ou est accessible sur la bibliothèque numérique de l'ENSIB à vérifier. Merci beaucoup surtout d'avoir respecté le timing. C'est bien la première fois qu'on est tout à fait à l'heure dans le cadre de notre journée d'études. On se retrouve tout à l'heure à partir très précisément de 13h45, en reprenant le même itinéraire pour accéder à la salle, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici l'entrée triangle. Bon appétit, à tout à l'heure.